Il y a quelques années de ça, j'ai compris comment une relation distante entre moi et les personnes que j'aime pouvait rendre les épreuves de la vie doublement difficiles. J'ai connu des moments où un lien fort m'aurait permis de mieux traverser certaines difficultés et de faire mon deuil plus facilement.
Moi j'aime bien quand maman elle est gentille.
Quand elle est pas gentille, j'ai envie de lui mettre du caca sur la tête.
Bienvenue sur Parents en Or, le soutien parental qui combine science et éthique pour vous offrir les connaissances et les outils indispensables pour développer une relation respectueuse et harmonieuse avec vos enfants. Je suis Sandra, scientifique de formation et accompagnante parentale au service du bien-être de votre famille. Je questionne les évidences en éducation, je recherche les nuances, la fiabilité des informations et j'évite les extrêmes pour vous aider à défendre vos intérêts et ceux de vos enfants.
J'ai perdu mon père il y a quelques années. Je vous parle de ça parce que j'ai vécu ces derniers moments avec lui comme si j'étais engluée, comme si j'étais paralysée et déconnectée de nous. J'avais peur, évidemment, vu le truc qu'on traversait. C'était des moments angoissants. Mais j'avais aussi comme les jambes dans du béton. C'était impossible pour moi de m'approcher de lui ou de lui montrer une quelconque forme d'affection. Et je me souviens pourtant, dans les derniers jours de sa vie, de me dire des trucs très consciemment du genre « Mais putain Sandra, t'as rien à perdre en fait, hein. Il va mourir, hein, tu le sais, c'est maintenant ou jamais. » Littéralement, c'est maintenant ou jamais. Et me dire ça, ça m'a permis d'oser des choses. Mais ça n'a pas suffi à briser le bloc de béton qu'il y avait entre nous. En fait, c'est faux quand on dit « t'as rien à perdre ». En réalité, si, on a toujours à perdre, même quand la personne qu'on aime est en train de mourir. On peut perdre encore un peu plus d'estime de soi, par exemple, perdre encore plus de reconnaissance, etc., selon la réaction que la personne va avoir en face. Vous imaginez bien que dans les derniers moments que j'ai eu avec mon père, ou on peut très bien imaginer ça dans n'importe quelle relation, quand on vit les derniers moments d'une relation à laquelle on tient, bien sûr qu'on a toujours à perdre, parce que on va encore plus s'en souvenir de ces moments-là, on va encore plus être marqué probablement par les réactions de la personne qui est en train de mourir, qu'on est en train de perdre et qu'on aime. Donc ça peut être un peu à double tranchant de sortir de sa zone de confort et d'oser être un peu plus, par exemple, intime avec la personne, etc. Parce qu'on peut se faire rembarrer, on peut se faire rejeter et ça peut être encore plus douloureux. J'ai fait ce que j'ai pu jusqu'au bout, mais parfois je repense à sa mort et je me dis mince, j'aurais aimé n'avoir qu'à m'occuper de ma tristesse dans ces moments-là. Au lieu de ça, je devais en plus gérer une posture distante que mon cerveau, en fait, il semblait devoir maintenir avec effort. C'était comme si il était obligé de faire cet effort-là pour ne pas empiéter sur la distance acceptable que mon père m'avait toujours montré ou qu'on avait tous les deux toujours entretenu depuis toujours. Quand on perd un être qu'on aime et qu'on a pu être présent jusqu'au bout, qu'on a pu tout dire, tout échanger, montrer son amour et en recevoir, au maximum en tout cas, alors une fois que l'être aimé est parti, on n'a plus qu'à s'occuper de notre peine, entre guillemets. Parfois c'est énorme, évidemment, rien que ça, évidemment. Ce deuil-là, cette tristesse, ce manque, déjà c'est énorme. Mais imaginez qu'en plus de la peine et du manque de sa présence, on y rajoute un énorme paquet de regrets, de ressentiments, de manques en lien avec la relation. De beaucoup de manques qu'on n'a jamais reçus et qu'on ne pourra plus jamais remplir. Avec mon père, ça a été complètement ça en fait. Il allait mal, il sombrait jour après jour et moi je devais gérer la difficulté, l'épreuve de le voir dépérir, mais aussi la retenue que demandait notre relation. C'était doublement fatigant, je trouve. Il faut comprendre qu'on ne s'est jamais montré aucune forme d'affection ou de tendresse, pas une, hein. Pas de celles qui permettent d'adoucir les moments durs. On ne s'est littéralement jamais touché à part en se faisant la bise. En réalité, mon père, il m'a montré son amour par plein d'autres façons bien à lui, que j'ai compris que trop tard malheureusement, mais en tout cas il ne pouvait pas le faire par les émotions, c'était sans doute trop difficile pour lui, c'était quelque chose de trop inconnu parce que lui-même n'en a jamais reçu, ni par le toucher, ni par la tendresse ou l'affection, ni par des mots gentils, ou voire même par des mots positifs, c'était assez rare que j'en entende de sa part. Alors, imaginez qu'au moment où on en a le plus besoin de tout ça, on ne puisse pas le donner, de lui vers moi, ou de moi vers lui. C'est tellement triste, je trouve ça vraiment tellement dommage, mais en même temps, ça se comprend, c'est logique. Je suis contente quand même d'avoir eu des gestes de tendresse dans ces derniers jours. Ça m'a demandé de me surpasser puissance 1000, de casser ou en tout cas de fissurer légèrement le béton armé qui était installé entre nous depuis 30 ans, grâce à la conscience que j'avais, que justement j'avais pas grand-chose à perdre en essayant, que c'était de toute manière les derniers moments qu'il fallait que j'essaye quelque chose, que je n'aurais plus l'occasion de le faire. C'était que des bribes d'une nouvelle posture qui aurait pu être construite entre nous. Ça n'a pas eu le temps de mûrir, finalement, évidemment. Alors, une fois qu'il est mort, j'ai eu à m'occuper de ma peine, mais aussi des regrets de ne pas avoir pu être à l'aise avec lui, de ne pas avoir pu tout donner, de ne pas avoir pu m'investir auprès de lui. J'ai pas pu me dire que j'ai tout bien fait pour lui à fond, qu'on a tout échangé entre nous, au maximum en tout cas, et que je regrette rien. C'est quelque chose que j'ai pas pu me dire. Je suis sûre que même dans les relations chaleureuses et étroites, on a des regrets de ne pas avoir tout dit et tout fait. Malheureusement, on ne peut pas remplir une relation entière sur un temps qui nous a été coupé. Mais quand la relation, elle est distante, c'est tout un monde de tendresse et d'attention qu'on va regretter et qu'on n'aura plus jamais la chance, ne serait-ce que d'entreapercevoir. Je trouve quelque part que la distance physique et émotionnelle s'oppose, lutte contre l'amour qu'on ressent. C'est douloureux, c'est assez perturbant à vivre. C'est-à-dire qu'on doit faire cet effort de distance physique et émotionnelle, alors qu'au fond, nous, on a de l'amour pour la personne qui est en face de nous. Donc ça, c'était pour le préambule un peu de cet épisode de podcast, parce que c'est cette histoire que j'ai eue avec mon père qui m'a fait prendre conscience de à quel point avoir une relation étroite, chaleureuse, dans laquelle on est à l'aise au niveau des échanges physiques et au niveau des échanges émotionnel finalement, à quel point c'est important et à quel point ça peut être aidant dans les moments difficiles, que ce soit des moments difficiles de façon banale, les difficultés du quotidien, jusqu'à des épreuves de la vie. Parce qu'il y a aussi autre chose que cette distance affective, elle a provoqué dans cette histoire. C'est la mise à distance aussi de la mise en action et la prise en charge, qui pourtant elle est indispensable quand on a un proche qui a besoin d'aide. Cette distance affective a fait que je ne me sentais absolument pas légitime pour agir suffisamment pour mon père. J'étais, en fait, de toute manière, j'étais convaincue que si je faisais quelque chose pour lui, je le ferais mal et qu'on allait me le reprocher, qu'on allait me dire que je fais mal les choses. Ça ne veut pas dire que c'était vrai. Moi, j'avais cette croyance-là, en tout cas. Que, par exemple, je ne prendrais pas le rendez-vous à la bonne heure, que j'aurais dû venir plus tôt, etc., etc., qu'on allait me reprocher de mal faire les choses. Et tout ça, ça pousse à l'évitement. C'est indéniable. Et j'ai bien remarqué que c'était lorsque je me mettais en retrait que j'étais dans l'évitement, que mes angoisses étaient les plus fortes vis-à-vis de lui et de son état de santé. Dans une revue systématique que je vous mettrai en lien, évidemment, on se rend compte que c'est les interactions et le fait de prendre soin de quelqu'un qui permet d'augmenter les taux d'ocytocine et d'augmenter le lien entre le parent, que ce soit la mère ou le père, et l'enfant. Plus on prend soin, plus on passe du temps avec la personne, plus on a envie de prendre soin. C'est vraiment un cercle vertueux. Dans une autre étude sur les bébés prématurés, on se rend compte encore une fois que c'est les relations étroites qui permettent d'être proactif et d'être plus impliqué dans les soins de nos bébés. Parce que le fait d'avoir un lien fort avec quelqu'un, ça fait qu'on est totalement à l'aise avec la personne. Et ça va nous mettre en action plus facilement pour s'occuper d'elle, pour passer des moments avec elle, etc. Parce que la motivation, elle sera forte, elle sera évidente, ce sera entre guillemets naturel. Elle est facile à suivre la motivation dans ces cas-là, il n'y a pas de résistance. D'ailleurs, on le dit souvent, vous savez, on dit qu'on ferait tout pour nos enfants. Et que quand ils sont malades, qu'ils sont tristes, on a envie de renverser toute la planète pour trouver une solution. C'est ce lien fort qu'on a avec eux qui donne autant de force. Dans une autre revue systématique, par exemple, que je vous mettrai aussi en lien dans la description, on se rend compte que des programmes de parentalité, ou en tout cas le fait d'apprendre aux parents à développer un lien plus fort avec leur bébé ou avec leurs enfants, dans le cas par exemple d'enfants adoptés par exemple, eh bien leur apprendre ça aux parents, d'avoir un lien, une relation plus forte, ça permet notamment d'augmenter les comportements positifs entre les parents et les enfants et d'améliorer le bien-être psychosocial des enfants. Donc quand on a une relation distante avec quelqu'un, comme nos enfants par exemple, on peut les aimer, mais on peut avoir ce malaise à ne pas être confortable pour se livrer et pour parler de tout avec nos enfants, et ça devient un combat constant entre se préserver, ne pas oser, et vouloir pourtant être présent pour l'autre, que ce soit nos enfants comme je le dis, ou n'importe qui d'ailleurs. Et ça se répercute dans notre parentalité quand ce sont nos enfants, même dans des contextes complètement anodins pour lesquels un lien étroit aurait pu faciliter les choses et régler les problèmes. J'interromps brièvement cet épisode pour vous inviter à vous abonner à la News Parents en Or. C'est une newsletter pas comme les autres que je vous envoie une à deux fois par mois, ça va dépendre de mes disponibilités, et qui est riche en informations sur la parentalité. Vous y trouverez le résumé d'une conférence, d'un podcast, d'un livre, etc. Il y a également une étude du jour dont je vous fais un résumé sur ce qu'on apprend concernant l'éducation des enfants. Vous trouverez aussi une astuce du jour pour vous faciliter votre vie de parent, l'actualité de Parents en Or et enfin une pensée ou une citation qui fait du bien. Inscrivez-vous via le lien dans la description de cet épisode ou directement sur le site internet de Parents en Or. On retourne maintenant à l'épisode du jour. Un autre avantage d'avoir un lien fort avec notre enfant ou avec une autre personne, c'est que on connaît mieux la personne et ça nous permettra de cibler mieux la solution au problème et on saura plus ce dont aura besoin la personne. Le fait d'avoir une relation étroite, ça permet de faciliter l'aide qu'on apportera parce qu'on connaît bien la personne. Quand on essaye d'aider quelqu'un comme notre enfant par exemple ou de résoudre un problème qui est dans la relation, on va tâtonner un moment, on va essayer des choses, on va se tromper, peut-être qu'on va empirer le problème, puis on va apprendre de tout ça, on va comprendre et trouver ce qui fonctionne le mieux. Ça va demander du temps, tout ça. Et je vais vous donner un très bon exemple de ça, grâce à des études qui sont menées par l'Université de Saint-Étienne, dans lesquelles on a demandé à des adultes de reconnaître des pleurs de bébés et de distinguer les pleurs de douleur des autres types de pleurs. Et ce sont les adultes, que ce soit des parents ou des professionnels de l'enfance qui ont l'habitude de côtoyer des bébés souvent, eh bien ce sont ces adultes-là qui passent du temps avec les bébés, qui y arrivent le mieux, qui arrivent à mieux reconnaître les pleurs de douleur, des autres types de pleurs. Ils y arrivent mieux que des adultes qui sont ni parents ni professionnels de l'enfance. On constate la même chose quand on demande à des parents de reconnaître les pleurs de leur bébé parmi ceux d'autres bébés. On se rend compte que cette distinction, elle se met en place quelques jours après la naissance et que finalement, c'est bien le fait de passer du temps avec le bébé qui permet d'apprendre à reconnaître ses pleurs et à distinguer ceux qui sont liés à la douleur. Le fait de se côtoyer permet d'apprendre à nous connaître. Ça paraît basique quand on dit ça, mais en réalité, on peut parfois passer à côté d'une solution aussi simple que ça. Passer du temps ensemble et apprendre à être à l'aise et à s'ouvrir sur tous les plans, que ce soit au niveau de l'affection physique ou émotionnelle, parler de tout, etc. Un autre avantage au lien fort entre un parent et un enfant, c'est que ça donnera plus envie à l'enfant et à l'adolescent de se confier et donc d'identifier la source des problèmes. Le fait de se sentir proche de quelqu'un, par exemple de ses parents, d'être à l'aise dans la relation et d'avoir finalement confiance dans la façon que l'autre a de gérer les problèmes qu'on va lui confier, tout ça, ce sera plus propice à la confidence. Alors juste attention, il y a quelque chose d'important, on peut absolument adorer ses parents et ne pas avoir envie de leur parler d'un problème, même avec des parents hyper aimants qui ne font pas la morale par exemple, qui n'ont pas l'habitude de nous punir, etc. Parce que se confier, ça met plein de choses en jeu. Par exemple, on peut ne pas avoir envie de les inquiéter, on n'a peut-être pas envie de leur rajouter des problèmes, etc., malgré le fait qu'on les aime et qu'ils ont une relation respectueuse avec nous. Mais pour pouvoir se confier à quelqu'un comme nos parents, ça demande un contexte où plusieurs facteurs doivent être présents. Il faut être proche de la personne, il faut qu'on soit à l'aise, il faut qu'on ait confiance, et aussi, j'ai envie de dire que c'est le point peut-être le plus important, il faut qu'on aime la façon dont l'autre réagit lorsqu'on se confie à lui, que ce soit notre parent ou un autre adulte par exemple. Si on se confie à nos parents pourtant qu'on adore, mais que à chaque fois qu'on se confie, ils sont toujours en train de nous faire la morale, ou ils essaient toujours de nous dire comment réagir, etc., on va peut-être pas avoir envie de se confier la prochaine fois. Par exemple, dans l'atelier sur l'éducation à la sexualité que je propose sur mon site, les connaissances qu'on a, que ce soit via les organismes comme l'UNICEF ou que ce soit via les recherches en sciences sociales et humaines, les connaissances montrent assez clairement que la communication entre les parents et leurs enfants puis leurs adolescents, elle est primordiale, c'est un facteur primordial pour que les parents aient un impact positif sur les comportements de leurs enfants et de leurs adolescents dans la sphère intime et amoureuse. Je vous mettrai le lien vers cet atelier sur l'éducation à la sexualité basé sur la science dans la description de cet épisode, évidemment. Je crois aussi qu'avoir une relation forte avec son enfant, ça va favoriser sa coopération. Je le constate en tout cas dans notre famille, le fait qu'on ait un lien fort avec les enfants fait qu'ils auront parfois envie de coopérer sur un truc précis, notamment parce qu'ils savent que ce truc, il est important pour moi ou pour nous par exemple, ou que ce truc nous fait du bien ou me fait du bien. Par exemple, mes enfants, ils savent que le silence, c'est quelque chose d'important pour moi, c'est une façon très efficace pour moi de me reposer, et ça leur arrive du coup d'accepter de me donner un moment de silence avec plaisir. En fait, ils vont le faire avec plaisir, parce que quand on aime quelqu'un, on a envie aussi de lui faire plaisir, tout simplement. C'est quelque chose de facile, c'est facile d'avoir envie d'apporter du positif ou du plaisir à quelqu'un qu'on aime. En fait, quand on a des sentiments positifs pour quelqu'un, on sera plus à même de vouloir lui apporter du positif. À l'inverse, évidemment, avec de la rancœur ou de la colère envers quelqu'un, ça ne donne pas envie ou moins envie de faire plaisir, ça donne moins envie de coopérer, d'apporter du positif à cette personne. Surtout si en plus les sentiments négatifs qu'on a envers cette personne perdurent dans le temps, sont chroniques, entre guillemets, c'est-à-dire que la relation en elle-même sur le long terme nous crée des sentiments globalement négatifs. Et puis en plus, c'est un peu un cercle vertueux, je trouve, parce que quand mes enfants coopèrent spontanément ou avec plaisir, avec l'envie de m'apporter du positif, c'est toujours des gestes qui me touchent énormément et ils le voient, ça je pense, parce que je le manifeste assez explicitement. Je leur montre beaucoup de reconnaissance et de gratitude pour l'effort qu'ils me font, parce que je sais que c'est un effort parfois. L'envie de me faire plaisir leur vient spontanément, mais c'est pas forcément quelque chose que eux, ça leur fait plaisir en soi. C'est pas un acte, quelque chose qui leur apporte directement du plaisir à eux. Du coup, je les remercie chaque fois avec beaucoup d'émotion. Je trouve ça vachement beau de voir comment des enfants peuvent être attentionnés par simple amour pour l'autre parfois. Et ça, je pense que ça ne fonctionne, ou en tout cas, c'est beaucoup plus présent dans le cadre d'une relation étroite, dans un lien fort avec son enfant. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, pour cet épisode, et je vous dis à très bientôt. Pour soutenir ce podcast et promouvoir le respect de l'enfant, n'hésitez pas à mettre une note maximale sur votre plateforme d'écoute, à commenter, vous abonner et à partager ce podcast.